Nous voilà en point, en plein sur le sujet du jour qui concerne donc la liberté d'informer. Nous sommes en compagnie de Fabrice Arfi, journaliste responsable du pôle enquête à Mediapart. Et à côté de vous se trouve Christophe Deloire. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Et vous avez notamment publié Circus Politicus à la suite de ce que vous venez d'entendre du billet politique de Frédéric XVI. On voit qu'il y a au moins deux points. Tout d'abord, ces militants d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, je ne sais pas ce que Frédéric XVI préférerait en pareil cas, mais en tout cas, ces black blocs ont empêché un certain nombre de journalistes de faire leur travail. Et puis on voit aussi que certains responsables politiques répondent de mauvaise grâce aux questions des journalistes. Christophe Deloire, votre point de vue ?
C'est pas seulement répondre de mauvaise grâce, c'est parfois récuse le rôle même des journalistes. Et je crois que ce qui s'est passé hier, c'est l'un des symptômes d'une des problématiques du débat public aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le débat public devient à la faveur des facilités de communication permises par les nouvelles technologies, un débat public de chaînes qui sont toutes inféodées à des partis politiques, des groupuscules, le cas échéant des entreprises multinationales, des groupes religieux, etc. Ou est-ce que dans ce débat public, il y a un rôle particulier pour les journalistes qui peuvent être considérés comme des tiers de confiance, qui, à la faveur de leurs procédures de vérification, à la faveur de leurs règles déontologiques, apportent quelque chose de particulier au débat public? Et comment fait-on pour défendre cela? Et comment fait-on pour le défendre dans une période où ce rôle, précisément, est autant attaqué?
Fabrice Arfi, votre point de vue à la fois sur les black blocs qui ont empêché les journalistes de faire leur travail, sur Jean-Luc Mélenchon, qui ne veut pas répondre, répond aux questions qu'il veut admettre, enfin bref.
C'est plus que ne veut pas répondre le concernant, c'est qu'il opère une diversion lexicale qui vise à dénier la définition du réel. On parle de quelqu'un qui est quand même un grand responsable politique, qui a justifié la haine des médias, qui a dit que c'était une haine saine et juste dans un billet de blog qu'il faut lire en entier et qui est bavard sur ce que peut être l'appauvrissement de la conversation autour de la liberté de la presse et du pluralisme, hein, qui est un principe fondamental. Sur les black blogs, enfin, je crois qu'il n'y a pas de débat sur à partir du moment où il y a une telle violence, dont je ne vois pas bien qu'est-ce qui peut la légitimer. Qu'ils ont empêché de travailler sur le terrain physiquement des journalistes, c'est évidemment proprement inadmissible. De la même manière qu'on a pu voir des forces de l'ordre à certains égards, parfois, je pense à la ZAD, empêcher des journalistes de filmer et travailler. Je ne mets pas sur un point d'équivalence, mais du point de vue de la liberté d'informer, les injonctions à ne pas décrire le réel tel qu'il est vient parfois de milieux tout à fait différents.
Mais en tout cas, on a l'impression que ce comportement est un comportement de plus en plus répandu. On évoquait Jean-Luc Mélenchon. On pourrait aussi, à sa manière, évoquer Emmanuel Macron, qui encadre le travail des journalistes, qui refuse de répondre à certaines questions qui lui paraissent complètement dérisoires lors de son voyage en Inde, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Deloire ?
Dans l'ensemble du monde, il y a une montée de la haine du journalisme.
Fabrice Arfi évoquait Emmanuel Macron.
Alors, chez Emmanuel Macron, c'est autre chose, parce que c'est pas, y a absolument pas de théorisation de l'affaiblissement du journalisme, mais d'une certaine manière, au contraire, et à l'international, par exemple, Emmanuel Macron intervient beaucoup dans le cadre de la défense, alors le cas échéant de journalistes français, mais pour la protection des journalistes au niveau international.
Mais vous savez, par exemple, on demande aux journalistes de sortir de l'Élysée, lorsque...
Là, c'est un autre risque, c'est le risque de l'excès de la communication, de l'excès du storytelling, et du fait que à repousser les journalistes pour mieux installer son discours, son récit, on peut aussi affaiblir le journalisme. Alors finalement, Emmanuel Macron, ces dernières semaines, a répondu à des questions dont on ne pouvait pas dire qu'elles étaient toutes absolument sympathiques à son égard, de manière plus forte. Mais je crois que les responsables politiques doivent éviter ces deux écueils que sont d'instiller la haine du journalisme d'un côté ou les excès de la communication et du storytelling de l'autre.
Fabrice Arfi.
Je crois qu'il y a quand même un point commun entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui-même qui l'a dit un jour dans le Nouvel Obs. Il a dit « Nous sommes tous les deux césaristes ». du césarisme. Sauf que Mélenchon disait, moi j'ai une base sociale que lui n'a pas. Et je crois qu'il met le doigt sur quelque chose de très vrai, que les institutions de la Ve République, la réduction du champ politique à une personnalité, le président, l'ultra-personnalisation du débat public, un Emmanuel Macron qui, dans la revue La NRF, dit aujourd'hui le contraire de ce qu'il disait dans la revue Esprit en 2012, j'assume la verticalité du pouvoir. J'assume la verticalité du pouvoir. En 2012, dans Esprit, il disait l'inverse. Il théorisait l'inverse, une horizontalité, un parlement fort, le contrôle, tout ça. Tout ça crée
un... Il a changé.
Oui, il a changé, mais très bien. Mais c'est bien, et puis on l'assume. Mais ça nous décrit un paysage culturel vis-à-vis de, notamment de la liberté d'informer et du rôle des médias dans un environnement politique et présidentiel qui parfois peut être mis à mal de manière tout à fait différente de ce qu'on a décrit tout à l'heure. Ça n'empêche qu'on est au cœur de notre discussion.
Frédéric, une question à Christophe Deloire de Reporters sans frontières. Quand vous voyez que un média comme Russia Today, RT, a du mal à être accrédité à certains événements de l'Élysée, à certaines conférences de presse de l'Élysée, puisque l'Élysée dit que c'est un média biaisé, est-ce que là, on est dans le cadre normal, à votre avis, de ce qui doit être pratiqué, ou est-ce que, finalement, l'Élysée abuse de sa position ?
Ça renvoie à la question aussi du projet de loi fake news, qui, au fond, est moins un projet de loi sur les fausses informations qu'un projet de loi sur les médias de propagande. Et visant notamment, manifestement, RT, mais il y a des médias de propagande issus de sociétés, d'autres sociétés fermées que la société russe, et notamment des médias de propagande chinois qui sont en train de se développer beaucoup.
Al Jazeera aussi, qui a ouvert une filiale en France, AG+.
Aujourd'hui, on est dans un moment où les démocraties sont affaiblies. Elles sont affaiblies de l'intérieur et elles sont affaiblies par la poussée extrêmement puissante de modèles despotiques qui non seulement oppriment leur peuple dans leur pays, mais aujourd'hui sont dans une entreprise d'exportation de ces modèles. Et il y a une forme de distorsion de concurrence entre des démocraties ouvertes, à destination desquelles des pays despotiques peuvent diffuser des contenus qui parfois peuvent être malveillants, peuvent être mensongers, détournés, à viser éventuellement de détournement de processus électoraux, et des sociétés fermées qui, elles, en dehors de toute réciprocité, évidemment, refusent que des médias de démocratie y diffusent leur contenu. Donc ça, c'est une problématique, à mon avis, majeure aujourd'hui du débat public au niveau international et sur laquelle il faut que les démocraties trouvent une doctrine appropriée. S'agissant de RT en France, je pense que dans tous les cas, les démocraties, en réponse à l'offensive des dictatures, ne doivent pas entrer dans la logique des dictatures, sans pour autant ne rien faire. Et ne pas entrer, c'est refuser les logiques de guerre de l'information. C'est refuser de donner des arguments qui seront utilisés par Moscou, par Pékin, pour précisément dire, voyez, on donne des leçons là-bas, et en fait, on nous interdit, on nous empêche de travailler.
Fabrice Arfi, il y a également un désintérêt, en tout cas en apparence, du public pour les journalistes, une défiance. Et d'ailleurs, à chaque fois que l'on a des baromètres ou des sondages, on voit que la confiance dans les différents organes de presse s'amenuise. Qu'en pensez-vous ? Est-ce la responsabilité des journalistes ? Est-ce quelque chose qui tient à l'air du temps ?
Oui, enfin, c'est compliqué d'essentialiser, d'essentialiser en règle générale. Mais moi, les médias, je ne sais pas ce que c'est, par exemple. Je sais ce que c'est un journaliste.
Média dominant, ça dit quelque chose pour vous ?
Je sais pas trop. Moi, j'aime pas trop rentrer dans ces catégorisations qui d'une certaine manière, empêchent la discussion. Moi, je suis un apôtre du cas par cas. Et donc, on regarde au cas par cas, au sujet par sujet, ce dont on parle.
Alors, sur quel sujet, selon vous, il y aurait des médias dominants, par exemple ?
Non, mais c'est pas...
Est-ce que, par exemple, le néolibéralisme est, en quelque sorte, la pensée spontanée de la presse ?
Je sais pas si c'est la pensée spontanée de la presse, mais c'est un champ économique de fait qui est majoritaire dans la structure du pays. Donc voilà, ça s'impose aux discussions et au travail journalistique. Mais évidemment qu'on est aussi, enfin on est là pour détruire l'idéologie de la communication. C'est quand même ça notre travail. Notre travail, c'est d'être des sortes d'instituteurs du réel, des apporteurs de vérité, de faits. Moi, la vérité, je sais pas ce que c'est, mais des faits qui permettent de nourrir la conversation publique. Vis-à-vis, par exemple, du débat sur les fausses nouvelles, les fake news, bien sûr qu'il faut lutter contre l'esprit de la propagande venant de pays autoritaires, mais je n'aime pas tellement l'idée de considérer que les démocraties seraient immunisées contre ce type de dérive-là. Je vais quand même juste rappeler qu'il y a une guerre en 2003 qui a été déclenchée sur la foi d'un énorme mensonge, la guerre d'Irak, venant d'une grande démocratie, les États-Unis. Nous, la guerre de Libye, à certains égards, a été déclenchée sur la foi d'informations erronées, comme l'a dit le Parlement britannique. Donc nous, démocratie, nous ne sommes pas à l'abri de tels dérapages, et nous avons, nous, journalistes, d'où que nous soyons, à contrôler ce type de dérive.
Christophe Deloire.
La dénonciation ne fait pas une politique. Il ne suffit pas de dénoncer les médias dominants pour apporter quelque chose à la société. Ce dont la société a besoin, c'est d'un journalisme qui puisse agir librement. Donc, quelle garantie on apporte à la liberté des journalistes, et notamment quelle garantie légale. Dans le cas d'une indépendance, y compris vis-à-vis de leurs propriétaires, comment on fait pour qu'une chaîne de télévision ne soit pas l'instrument de son propriétaire?
Vous pensez par exemple à Canal+.
Évidemment, le cas de Bolloré, qui vient d'être mis en examen pour corruption, sur une affaire impliquant notamment le Togo, et qui, sur les antennes de Canal+, a fait en sorte que soit diffusé un contenu de publi-reportage absolument aberrant sur le Togo, a fait retirer de site internet de la chaîne des contenus sur le Togo, pour servir son intérêt à lui. Donc, quelle garantie? Comment fait-on pour
que
éviter
que ça se
passe? Que
dit le CSA à ce sujet?
Alors, il y a une enquête au CSA sur le sujet, de manière générale. Sur ce sujet, le CSA inclut dans les conventions des chaînes de télévision des dispositions sur l'honnêteté de l'information et d'autres sur l'indépendance de l'information. Du point de vue de Reporters sans frontières, ces dispositions sont beaucoup trop faibles, pas assez appliquées. On attend du CSA, précisément, qu'il obtienne des éditeurs, des responsables des télévisions, que ces garanties d'indépendance, elles soient extrêmement fortes et qu'elles soient respectées. Ça vaut pour Bolloré, ça vaut pour le Kremlin et ça vaut pour les autres.
Il y a une loi, Fabrice Arfi, la loi sur la liberté des affaires, qui pourrait, de manière directe ou indirecte, menacer la liberté des journalistes d'enquêter. Expliquez-nous pourquoi celle-ci vous paraît inquiétante. Qu'est-ce qui pourrait, en quelque sorte, surgir au terme de cette loi?
En fait, c'est une loi sur le secret des affaires. Le secret est évidemment légitime en démocratie. Il faut du secret, du secret militaire, du secret défense, du secret de la vie privée, pourquoi pas du secret des affaires. Le problème dans notre pays, le retour d'expérience que nous, journalistes pouvons apporter, le rétexte, comme on dit dans l'armée, c'est que le secret est trop mal défini et trop mal contrôlé. Et donc, on va créer aux affaires économiques ce qui existe déjà aux affaires militaires, le secret défense, avec le secret des affaires, qui risque d'être tel que la loi, qui est une transposition dans le droit interne, le droit national, d'une directive qui a été votée il y a quelques années au sein de la Commission européenne, risque de devenir une forme d'arme de dissuasion massive contre tous ceux, pas que les journalistes, les ONG, les universitaires, les chercheurs, qui vont vouloir utiliser des informations liées au monde de l'entreprise pour documenter leur travail. La loi, qui apporte des garanties de façade et que de façade, est un réel danger pour la liberté d'informer. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a une défiance vis-à-vis de la presse, des journalistes. Vous avez raison, mais il y a aussi, quand les journalistes se lèvent pour dire attention, là, on va vous voler des informations, puisque c'est de ça dont on parle. C'est pas un geste corporatiste de quelques-uns qui disent on va nous empêcher de travailler. Ce que nous défendons en luttant contre la loi secret des affaires telle qu'elle est pensée, c'est les citoyens, c'est leur droit de connaître ce qui leur appartient, leurs informations qui régissent leur vie quotidienne. Eh bien, il y a une pétition qui est en ligne sur le site Polynice, c'est des centaines de milliers de signatures qui n'arrêtent pas d'augmenter chaque jour. Donc ça montre aussi l'inquiétude et à quel point les citoyens sont concernés par leur liberté de savoir.
Christophe Deloire.
De manière générale, on est dans une période, alors sans doute d'extension, peut-être parfois excessive de la transparence, mais on est aussi dans une période d'extension du domaine du secret. Et la loi sur le secret des affaires, au fond, est un élément d'un contexte beaucoup plus large dans lequel l'extension du domaine du secret est liée au contrat, parfois au contrat de salarié, à la propriété intellectuelle, parfois au partenariat pour des médias. Donc à beaucoup d'aspects juridiques, à un environnement juridique qui précise le contrôle de l'information par des instances non étatiques. La loi sur le secret des affaires est la transposition d'une directive européenne qui excluait absolument de son champ d'application et qui exclut les médias, et même plus largement au-delà de la liberté d'expression et d'information. Et ça, c'est reprécisé à nouveau de manière très claire dans le texte qui est en ce moment au Parlement. Donc, de ce point de vue-là, la protection, elle est assez large et, à mon sens, plus que de façade. Le problème de cette loi sur le secret des affaires, c'est qui, d'ailleurs, en France, garantit plus qu'au niveau de la directive européenne aussi la protection des sources des journalistes, puisque la protection des lanceurs d'alerte relève de la loi Sapin 2 avec une protection plus forte qu'au niveau européen. Le problème, c'est que, comme dans beaucoup d'autres infractions, le risque, c'est que ces infractions soient utilisées de manière abusive par des gens qui déclenchent des procédures en sachant très bien qu'elles n'iront jamais au bout.
Comme Vincent Bolloré, par exemple.
Comme Vincent Bolloré, mais c'est devenu dans toute l'Europe.
Alors, il faut peut-être l'expliquer en quelques mots.
Donc c'est ce qu'on appelle des procédures bâillons. C'est je suis un acteur de la vie publique. Je veux empêcher un journal ou un média de raconter quelque chose ou de poursuivre des enquêtes. Je déclenche des procédures à tout va et je finis par perturber suffisamment la vie ou le travail des journalistes, alors même que à la fin je retirerai ma plainte ou que je serai débouté, peu importe. J'ai suffisamment ennuyé le journaliste pour l'empêcher de faire son travail.
Fabrice Arfi.
Mais ça peut aller au bout. Hein. Je rappelle quand même que le journal Challenge a dû retirer une information sur injonction du tribunal de commerce pour avoir révélé qu'une société, la société qu'il ne faut pas citer, je la cite, Conforama, était dans une situation économique difficile. Donc parfois, ça va au bout. Le journaliste Édouard Perrin, qui est le président du collectif Informé n'est pas un délit, que je représente aussi ce matin, a révélé l'affaire LuxLeaks au Luxembourg. Ses sources, par la justice française, ont été recherchées et il a lancé une procédure dont il a été débouté. Donc le secret des affaires peut réellement, en effet, comme le dit Christophe Deloire très justement, être à l'origine de procédures bâillons, mais ces procédures peuvent également aller au bout et assujettir le droit de la presse qui date quand même de 1880, du 29 juillet 1880, dont l'article premier est magnifique. L'imprimerie et l'édition sont libres, point. C'est l'une des rares lois du corpus législatif français qui n'a pas de sauve d'exception. L'édition et l'imprimerie sont libres, point. C'est le code de la route du journalisme du point de vue légal et pénal en France. On ne peut pas en sortir. La loi secret des affaires et d'autres veulent contourner ce droit-là qui est consacre la liberté d'informer et le droit de savoir des citoyens pour l'assujettir à d'autres exigences qui sont, dans le cas présent, économiques. Et ça n'est pas tolérable.
Mais lorsque les affaires sont complexes, prenez par exemple le cas de Lafarge. On accuse Lafarge d'avoir financé l'État islamique pour se maintenir en Syrie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une affaire à tiroir. On s'aperçoit qu'il y a probablement eu des contacts entre les renseignements et l'entreprise Lafarge. On ne sait plus dans quelle mesure le Quai d'Orsay a laissé ou non Lafarge opérer en Syrie. Bref, l'affaire semble complexe et on se demande si finalement la manifestation d'une vérité partielle n'a pas été nuisible non seulement à l'entreprise, mais peut-être même aux intérêts de l'État français.
J'ai plutôt tendance à penser que le dossier que je connais un peu, ce qui a été surtout nuisible, c'est de voir une multinationale financer en connaissance de cause une organisation terroriste un an avant que celle-ci commette la plus grande campagne d'attentat que la France n'ait jamais connue de son histoire.
Mais si celle-ci délivrait des renseignements à l'État, puisqu'on s'aperçoit finalement le Quai d'Orsay était plus ou moins au courant.
Mais ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. Enfin, le financement du terrorisme, c'est un délit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 6 dirigeants de Lafarge sont mis en examen pour financement du terrorisme. Et certains d'entre eux reconnaissent les faits. Et reconnaissent les faits pourquoi ? Alors, ils ont financé Daesh, ils ont pactisé avec le diable en Syrie pour des seules raisons économiques. Parce que l'usine qu'ils avaient en Syrie avait représenté 700 millions d'euros d'investissement qu'il fallait amortir. Et Daesh ou pas Daesh, il fallait continuer à produire parce qu'on ne pouvait pas perdre un centime de rentabilité. C'est quand même ça. Alors après, que des services de renseignement utilisent Lafarge ou d'autres pour avoir des informations, ça me paraît être dans la logique d'un service de renseignement. La question, c'est jusqu'où l'information est remontée au sein de la classe politique française de l'époque. C'est ça la question.
Christophe Deloire.
On ne peut pas reprocher à des journalistes de travailler à partir de vérités partielles. L'établissement de la vérité, il est compliqué. Donc, nécessairement, on n'y va pas à pas. Je crois que, philosophiquement, ce sera absurde de penser que les journalistes peuvent commencer par des vérités globales.
Effectivement. On a une vérité globale ou une vérité partielle dans certains cas. Il y a également une questions autour de la liberté des journalistes, lorsqu'il est question donc de révéler certaines choses sur des personnes qui peuvent se révéler calomniées. Je pense par exemple à des conseillers de l'Élysée dans le dernier livre de François Hollande. Il évoque deux de ses collaborateurs qui ont été démissionnés de l'Élysée suite à des articles, l'un d'entre eux, un article de Mediapart. Et il dit finalement, au terme de la procédure, ceux-ci se sont révélés innocents, là, en l'occurrence. Il pensait à Aquilino Morel. Qu'en pensez-vous, Fabrice Arfi?
Ah, mais innocent de quoi, pardon? On a révélé que Aquilino Morel, conseiller de François Hollande, menait une vie de château à l'Élysée, ce qui n'a pas été contesté et reconnu par l'intéressé. Deux, pendant qu'il travaillait à l'IGAS, qui est une autorité de contrôle, notamment de la pharmacie et du médicament, il travaillait secrètement pour un grand labo pharmaceutique, ce qu'il n'avait pas déclaré, ce qu'il a lui-même reconnu.
Mais bon, sur ce point-là, il a été acquitté.
Mais c'est pas qu'il a été acquitté, c'est qu'ensuite la justice se demande, c'est pas nous la justice, se demande si nos informations qui sont vraies, dont nous ne retirons pas une virgule, se demande si c'est un délit. La justice dit « nous n'avons pas les éléments pour caractériser un délit ». Je ne vois pas en quoi on doit juger la qualité du journalisme à l'aune de la seule conclusion judiciaire. Nous ne retirons pas une virgule de ce que nous avons écrit sur Aquilino Morel. Je veux dire, ça, c'est un travers d'époque. C'est un travers d'époque d'assujettir le journalisme à la décision judiciaire. Comme si la vérité judiciaire, qui est une fonction sociale extrêmement importante, qui est de définir si quelqu'un a commis un délit ou pas. Mais le monde ne se sépare pas entre légal et illégal. Ce que nous avons révélé, c'est qu'un homme qui travaille pour une institution qui doit contrôler les labos pharmaceutiques a travaillé en sous-main pour l'un de ces labos sans le déclarer. Ces informations sont vraies et je crois qu'elles sont d'intérêt public.
Christophe Deloire, votre point de vue là-dessus?
Je partage absolument l'avis de Fabrice Arfi. Le rôle des journalistes, ça n'est pas d'être ni les suppôts, ni les pourvoyeurs d'informations de la justice, et ça n'est pas la justice de valider par une décision judiciaire ultime les enquêtes des journalistes. Ce qui permet de valider l'enquête des journalistes, c'est leur offre de preuves, le cas échéant, c'est-à-dire les éléments qu'ils apportent, leur bonne foi, le travail de contradictoire qu'ils ont effectué, c'est la mise en place des processus journalistiques et le respect des règles éthiques. Point.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire, Fabrice Arfi? Vous avez évoqué votre inquiétude sur cette loi relative au secret des affaires. Qu'est-ce qui pourrait être mené pour que le travail des journalistes puisse être garanti ou mieux encadré en France par rapport à leur liberté de faire leur métier?
Mais en fait, c'est une bataille totale qu'il faut mener. C'est pas simplement comme à la découpe dans le monde de l'immobilier, qu'on va améliorer la liberté de la presse. Je pense qu'on a besoin de tout reposer sur la table, à la fois la situation capitalistique en France, qui est un énorme problème. Pas besoin de beaucoup s'exciter pour voir que l'essentiel des grands médias privés appartient à des milliardaires, et tant mieux pour eux, hein, il n'y a pas de racisme de l'argent, mais qui sont des capitaines d'industrie dont le cœur d'activité n'est pas l'information. Le cœur d'activité, on l'a dit avec Bolloré, c'est de faire des ports. Enfin bon, l'Empire Bolloré, c'est absolument gigantesque. Des sondages jusqu'aux ports, en passant par les médias, de vendre des armes, de faire du BTP, de faire de la téléphonie mobile, dont le cœur d'activité et le chiffre d'affaires dépendent pour certains de leur bonne relation avec les gouvernements en place, quels qu'ils soient, de droite ou de gauche, voire de leur relation, confère Bolloré ou d'autres, avec des dictatures à l'étranger. Il n'y a pas besoin de beaucoup s'énerver pour voir que cette situation-là peut entrer facilement en contradiction avec une information libre et indépendante, et qui est donc un secteur créateur de la pire des censures, qui est l'autocensure, la censure avant la censure. Mais c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, que la poursuite des journalistes, car nous devons répondre de ce que nous faisons devant la loi, hein, je ne plaide pas l'irresponsabilité du journaliste, au contraire, nous avons, le juge est garant de la liberté de la presse, à condition que ce ait lieu dans le cadre de la loi prévue à cet effet, que tout contournement du droit de la presse soit proscrit dans notre pays.
Christophe Deloire.
Je partage ce que vient de dire Fabrice Arfi, mais voudrais l'élargir. Aujourd'hui, le champ de l'information n'est pas composé que de médias d'information dont une bonne partie serait détenue par des capitaines d'industrie. Le champ de l'information, lié à l'ouverture permise par les plateformes, c'est un champ dans lequel il y a le journalisme le plus sérieux, un journalisme parfois un peu moins sérieux, un peu moins honnête, des contenus de propagande, des contenus publicitaires, des rumeurs, et qui sont diffusés exactement de la même manière, parce que les plateformes sont aveugles à voir comment ont été produits les contenus. Et sont diffusés de manière égale mais sont favorisées, comme l'ont prouvé récemment des études du MIT, du fait des biais cognitifs des êtres humains, les informations erronées, puisqu'elles circulent plus vite, elles sont plus choquantes, plus nouvelles, donc elles circulent plus vite. Ça, c'est une problématique majeure du débat public, c'est comment on réussit, dans ce nouvel écosystème, à redonner un avantage à être rigoureux, à faire du journalisme de qualité, alors même qu'aujourd'hui, le journalisme rigoureux de qualité, il coûte plus cher et il circule moins bien.
C'est un mot de conclusion, Fabrice. C'est une vieille affaire. On n'a pas attendu le numérique pour qu'il y ait les protocoles des sièges de Sion. Je peux même revenir avant. La Révolution française a été à l'origine de la création de beaucoup de médias. Mais il y avait aussi les nouvelles à la main, hein, qui sont les sortes de blogs de l'époque où on diffusait les pires rumeurs sur la reine et sur d'autres, sur les révolutionnaires. Donc c'est une vieille problématique. Mais en effet, il y a une particularité du numérique d'accélérateur de particules de notre discussion.
Évidemment. Un mot de conclusion, oui. Christophe Deloire. Et une initiative peut-être.
Non, il y a quelque chose tout de même de très nouveau, c'est que les plateformes, là où la publicité par exemple était un moyen du pluralisme politique, elle est devenue l'objectif des plateformes. Ce qui est tout à fait nouveau aussi, c'est l'absence de régulation. C'est que sur la distribution de la presse écrite, il y avait une régulation, il y avait des garanties démocratiques qui aujourd'hui ont sauté du fait de cette ouverture et où le droit n'est plus tellement adapté, où il faut réfléchir à l'adaptation des principes anciens à un monde qui est radicalement nouveau. Et pour renverser le rapport de force, pour redonner de l'intérêt au journalisme digne de ce nom, selon l'expression de la Charte des journalistes, Reporters sans frontières vient de lancer une Journalism Trust Initiative, une initiative pour la confiance dans l'information, qui est un processus très complet, mais qui vise précisément à redonner, y compris des avantages économiques, parce qu'au-delà de la liberté, de l'indépendance du pluralisme, il y a la question de la survie économique du journalisme et de sa capacité à financer des enquêtes.
Merci Christophe Deloire pour Reporters sans frontières. Merci Fabrice Harfi de Mediapart.